Frères et sœurs, c'est vraiment une très grande joie d'être avec vous ce matin pour moi. Comme pasteur itinérant, j'ai ce privilège, chaque fois que je me déplace, de tomber sur des chrétiens. Ce n'est pas tout à fait par hasard, hein. J'ai une adresse, j'y vais, il y a des chrétiens qui m'accueillent. Et donc j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens partout, mais c'est vrai qu'il y a des chrétiens partout. Quand j'étais petit, j'étais étonné de cette expression qu'on a entendue tout à l'heure, « toutes les nations te louent ». Je me disais, mais toutes les nations ne louent pas le Seigneur. Mais ça veut dire, dans toutes les nations, il y a un peuple qui te loue. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les nations, dans leur intégralité, vont venir louer le Seigneur. En tout cas, maintenant, ce n'est pas le cas. Mais dans toutes les nations, aujourd'hui, ça, nos yeux en sont témoins, il y a au moins une personne, et souvent beaucoup plus, qui loue le Seigneur. Et à cause de cela, on peut dire, toutes les nations te louent. Mais déjà, les psaumes le disaient, vous voyez. C'était déjà l'attente de ce moment. Voilà. Encore un tout petit mot de témoignage personnel. En ce moment, j'ai cette pensée qui m'habite. Nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Voilà. Hier, j'ai déménagé. J'ai dormi pour la dernière fois dans un lit. Et demain, je rentre dans une nouvelle maison avec un autre lit que je ne connais pas. Enfin, le lit, je le connais, mais pas la chambre. Et donc, je suppose que la plupart d'entre vous avaient déménagé au moins une fois. Hein. Moi, ça fait peut-être 20 fois que je déménage, mais et chaque fois, c'est quand même un peu comme un arbre qu'on arrache et qu'on plante ailleurs. Et ça, c'est dépaysant et ça nous apprend qu'on a peut-être trop de choses dans la maison, et dans les greniers, dans les caves, dans les placards. Et que tout cela, ben, il faut le gérer comme il faut, mais qu'un jour, voilà, notre trésor est ailleurs, n'est-ce pas ? Voilà. Et notre trésor, il est notamment manifesté quand nous sommes ensemble réunis. Pendant ce chant que nous venons de chanter, j'ai repensé à cette parole de l'apôtre Jean qui dit « Comment on reconnaît un chrétien ? Il aime la parole de Dieu et il aime les frères et sœurs en Christ. » Voilà, c'est quand même assez concret. Hein? Alors on peut faire semblant, on peut évidemment... On est fort pour faire semblant quelquefois, mais quand même, je pense que la plupart d'entre nous, sinon nous tous qui sommes là, nous comprenons ce que veut dire aimer la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Aimer la mettre en pratique, hein, pas simplement l'entendre. Et puis aimer les frères et les sœurs. Voilà. Si quelqu'un vit ces deux choses, très probablement, c'est un chrétien. Voilà. Alors, on m'a proposé de parler avec vous ce matin de ces deux ministères qu'on trouve dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament notamment, des anciens et des diacres. Donc je crois comprendre que c'est une réflexion qui vous occupe. C'est un sujet très important et... C'est bien volontiers que je veux évoquer ces deux ministères de base que les réformateurs au XVIe siècle ont remis en vigueur parce qu'ils avaient été dénaturés, et ces deux ministères qui doivent encore aujourd'hui être restaurés dans beaucoup de communautés, dans beaucoup d'églises. Donc je vais lire deux passages. Le premier dans l'épître de Paul aux Philippiens. Je vais lire les deux premiers versets, Philippiens 1, versets 1 et 2, surtout le verset 1. « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, entre parenthèses, serviteur, c'est le mot diakonos. » Donc, vous voyez, le mot qui a donné diacre, il convient à tous les serviteurs, y compris les apôtres. Donc c'est un peu compliqué, mais quand même c'est utile de le savoir. Hein. Et quand Jésus dit « Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir », il emploie le verbe « diakonéo », qui veut dire « servir ». Mais donc un apôtre, c'est un serviteur, et un diacre, c'est un serviteur, et un ancien, c'est un serviteur. D'ailleurs, ancien et apôtre, ça se recouvre. Et nous sommes tous des serviteurs, à l'image de Jésus qui a été notre serviteur, notre diakonos, notre serviteur. Voilà. Donc on est tous des serviteurs. Donc le mot serviteur, le mot diacre, ne veut pas dire ben, c'est toi et puis c'est pas moi. Ce mot englobe tout le monde, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et qui peut dire qui est le plus grand et qui peut dire qui est le plus petit? Bon, alors, je reprends ma lecture. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints qui sont à Philippe, tous les saints c'est tous les chrétiens, hein, tous les frères, c'est le même sens, virgule, aux évêques, ça veut dire aux surveillants, c'est pareil que ancien et au diacre. Donc, quand Paul écrit cette lettre, il écrit la même lettre à tous les chrétiens de l'église de Philippe, et il mentionne parmi eux les anciens et les diacres. De point que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ma deuxième lecture se trouve quelques pages plus loin dans la première lettre aux Thessaloniciens. Voilà, juste après en fait. Première aux Thessaloniciens, je vais lire au chapitre 2, les versets 7 et 8. Et donc Paul, apôtre, va décrire un petit peu comment son ministère s'est dévoilé, notamment au sein de cette église de Thessalonique. Chapitre 2, verset 7, je lis, au milieu du verset apparemment, « De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tellement vous nous étiez devenus chers. » Un tout petit peu plus bas, au verset 11. « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Alors, avant d'aborder directement la question des anciens et des diacres, même s'il n'est pas question d'anciens et de diacres directement à partir de ces versets, je voudrais faire trois remarques sur le début de cette lettre, sur ce chapitre, sur ce début de cette lettre de Paul aux Thessaloniciens. Tout d'abord, je l'ai dit déjà, la même lettre est adressée à tous. On aurait pu imaginer que Paul écrive aux anciens, une lettre pour les anciens. Puis après, il écrit une autre lettre pour les diacres. Voilà, ce n'est pas tout à fait le même ministère, même si tous sont des serviteurs. Et puis qu'il écrit une troisième lettre, différente, plus simple, peut-être avec des dessins, pour les membres de l'Église. Voilà. Et puis encore une quatrième pour les enfants. Voilà, donc quatre lettres. On aurait quatre lettres de Paul aux Thessaloniciens, une pour les anciens, une pour les diacres, une pour les membres de l'Église et une pour les enfants. Et on pourrait même imaginer une lettre pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, une lettre pour ceux qui sont chrétiens depuis pas longtemps. Ça ferait beaucoup de lettres, n'est-ce pas? Notre Bible serait grande comme ça. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Paul écrit une seule lettre, pour tous les chrétiens de la ville de Thessalonique. Voilà, peut-être réunis dans plusieurs lieux d'ailleurs, vraisemblablement. Et puis cette même lettre, elle est pour tous les chrétiens de Thessalonique, sans exception, les hommes et les femmes, les chrétiens d'origine grecque, d'origine juive, les chrétiens de longue date, ça voulait dire quelques années, hein, et de fraîche date, les maîtres et les serviteurs, et même les enfants, puisqu'on voit que par exemple ailleurs, dans l'épître aux Éphésiens, Paul dit « enfants ». Obéissez à vos parents. Donc, il s'adresse aux enfants aussi. Ils étaient membres de l'Église quand même, ces enfants. Ils faisaient partie de l'Église. Voilà. Et puis, la même lettre est aussi adressée aux anciens et aux diacres. La même lettre, les mêmes sources, les mêmes exhortations, les mêmes encouragements, les mêmes instructions sont pour tout le monde. Voilà. Il y a une expression qui dit la confiscation du savoir. Donc, ça veut dire que il y en a qui savent plus que d'autres. Et donc, quand on a plus de savoir, on a plus de pouvoir. Là, non. Les mêmes informations, la même veine est accessible à tous les membres, sans exception. Il n'y a rien qui est dans un livre fermé à clé, si vous voulez. Voilà. Bon. Je crois que c'est important de le rappeler ce matin. Il n'y a pas de choses cachées à certains que d'autres connaîtraient. Voilà, la Bible est la même pour tous, tout simplement. Et en Cévennes, où j'habite en ce moment, eh bien, il y a trois siècles, les bergères avaient dans leur tablier des portions de la Bible qu'elles lisaient en gardant leurs moutons ou leurs chèvres. Et donc c'était une grande force de la réforme que de mettre la parole de Dieu à la portée de tout le monde, et pas simplement à la portée de quelques-uns qui avaient un pouvoir sur les autres. Il n'y a pas de pouvoir sur les autres. Voilà, la même lettre est adressée à tous. Deuxième remarque préliminaire, Paul est reconnaissant pour cette Église. Il le dit très clairement au tout début, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. » Alors on pourrait dire, « Je rends grâce à Dieu pour ceux qui vont bien. » Je rends grâce à Dieu pour ceux qui grandissent. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont des victoires dans leur vie. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui retiennent bien ce qu'on leur a enseigné. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui témoignent tous les jours de leur foi, etc. Il ne dit pas ça du tout. Il dit, je rends grâce continuellement à Dieu pour vous tous. Pour vous tous. Ça me parle beaucoup. Et ça me dit ceci, pour l'apôtre Paul, tout chrétien est un sujet d'action de grâce. Même celui qui ne va pas bien, même celui qui oublie ce qu'on lui a dit, même celui qui trébuche tous les trois jours, même celui qui est casse-pied, pénible et je ne sais pas quoi encore, eh bien, c'est un chrétien. Paul rend grâce pour lui. Je trouve que c'est important, hein? C'est vraiment important, hein? Dans un berger, il n'y a pas que des brebis qui gambadent, il y a aussi des brebis qui traînent la patte, il y a des brebis qui ont des chardons dans leur laine, c'est pénible pour les enlever, il y a des brebis qui vont leur petit chemin. Toutes les brebis sont précieuses aux yeux du berger, sans exception. C'est encourageant. Parce que dans l'église, il y a toujours au moins une personne qui dit « Oui, mais moi je ne vais pas trop bien, donc moi je suis un peu à l'écart ». Peut-être même chacun se dit ça un jour ou l'autre. Moi, je me le dis quelquefois. Je dis, oui, moi, je suis quand même un peu pas bien, quoi. Eh bien, voilà. Les bras du Seigneur, l'amour du Seigneur va chercher même celui qui dit, moi, je ne suis pas trop digne, moi, je ne suis pas trop intelligent, moi, je n'ai pas trop de dons, moi, je donne du souci aux autres. Voilà. Tu es aussi un bien-aimé du Seigneur. En disant ça, je parle de l'amour chrétien, évidemment, l'amour pour les frères, et je parle aussi du cœur des diacres et du cœur des pasteurs et des anciens et du cœur de Jésus, qui va chercher spécialement celui qui dit « Oui, mais moi, je n'ai pas trop de bonnes notes. Voilà, je n'ai pas de bonnes notes. Je m'asseoir au fond. Voilà. » Voilà. Je rends grâce pour vous tous. Et d'ailleurs, on voit que quand Paul écrit, le même Paul, quand il écrit aux Corinthiens, avant de leur passer un savon, il leur dit, je rends grâce continuellement pour vous tous. Et donc, vous voyez, c'est... l'introduction à la lettre aux Corinthiens nous confirme que Paul aimait tous les chrétiens, et nous aussi aimons tous les chrétiens. Tous les chrétiens qui aiment le Seigneur, qui aiment les frères, aimons-les nous-mêmes. Ça reflètera l'amour de Dieu. Ça nous montre aussi que la marche chrétienne n'est pas un idéal inaccessible. C'est une marche, pas facile, semée d'embûches, dans laquelle on a besoin de crier à Dieu souvent, et le Seigneur nous relève d'une manière ou d'une autre. Ça nous montre aussi que si quelquefois on est trop indulgent pour nous-mêmes, quelquefois on est trop sévère pour nous-mêmes. Voyez ? Trop indulgent, ça veut dire « Ah ben, le Seigneur m'aime comme je suis, c'est pas grave. » Il ne faut pas trop le dire, hein, parce que ça serait attrister le Seigneur en disant « J'attriste le Seigneur, mais c'est pas grave. » Donc, on ne peut pas trop dire ça, n'est-ce pas? Mais quelquefois, nous pouvons nous juger plus sévèrement. Voilà. Nous nous donnons 3 sur 20, le Seigneur nous met 12 sur 20. Et nous dit « Continue, tu peux avoir 14. » Voilà. Et nous nous disons « Je mérite 3. » Je ne mérite rien du tout. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes en route, et peut-être nous reflétons le Seigneur plus que nous le pensons. Voilà. Et donc l'encouragement fait partie du ministère de tous les chrétiens. Encourageons-nous les uns les autres, et notamment du ministère des anciens et du ministère des diacres. Une troisième remarque très rapidement, quand il écrit aux Thessaloniciens, Paul dit « Vous êtes un modèle pour tous les chrétiens de la région. » C'est très beau, hein? Donc, les anciens doivent être des modèles, les diacres doivent être des modèles, mais quand il écrit à tous les chrétiens de l'Église. Il dit, vous êtes devenus un modèle pour tous les chrétiens de la région. C'est encourageant. Et il dit, à tel point qu'on n'a même plus besoin d'en parler. Alors, on pourrait dire, mais alors, ça alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie de chaque chrétien, même s'il ne dit rien, s'il aime le Seigneur, s'il aime les frères, cette vie est une prédication. Voilà. Votre vie est une prédication de l'Évangile. Même quand vous n'y pensez pas, même quand vous êtes à Intermarché ou Leclerc ou je ne sais pas quoi, vous faites vos courses, dentifrice, Sopalin et compagnie, eh bien, si Christ est en vous, vous êtes une lettre de Christ qu'on peut lire, même quand vous n'y pensez pas et même quand vous n'allez pas bien. Voilà. Ça, c'est très important. Soyez encouragés de cela, frères et sœurs. Maintenant, je reviens au verset que j'ai lu, que nous avons entendu au chapitre 2, d'abord le verset 7 et 8, quand Paul se compare à une nourrice. Il se compare à une nourrice, à une maman. Il se compare à une maman, l'apôtre Paul. Après, on dit que Paul était misogyne, mais je ne le crois pas du tout. Et donc, je relis ce qu'il dit. De même qu'une nourrice, une maman, prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, c'est un autre mot que l'amour, mais ce n'est pas interdit, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tellement vous nous étiez devenus chers. Vous voyez un petit peu le lien qu'il y a entre Paul et les chrétiens, et les chrétiens en général. Et donc, il a vécu cela quand il était au milieu d'eux. Il rappelle cela, et là, maintenant, il est ailleurs, et il écrit, et il dit, vous vous rappelez comme nous étions avec vous, comme des mamans. Il ne parle pas que de lui, puisqu'il dit nous. Nous étions comme des mamans, dans notre vive affection pour vous, de tendres soins. Voilà. Tellement vous nous étiez devenus chers, c'est-à-dire comme des enfants d'une maman. Voilà le regard de Paul sur les chrétiens de Thessalonique et d'ailleurs. Et donc, nous étions contents de vous apporter l'Évangile, cette bonne nouvelle, mais ça nous semblait insuffisant. On aurait voulu vous donner notre propre vie, comme une maman qui donne son lait, comme une maman qui donne ses entrailles à ses enfants. Elle ne sait pas quoi faire pour que l'enfant soit bien, n'est-ce pas? Elle l'emmaillote, elle le couvre, des fois elle le couvre trop même, parce qu'il faut bien qu'il ait un peu froid cet enfant, mais elle lui met encore un bonnet, encore une écharpe, encore des gants, et puis encore une banane pour le goûter, et encore un peu de jus d'orange, et encore une baguette, une barre de céréales, et dit « rentre pas trop tard, et ne va pas trop vite, et fais attention à toi ». Vous voyez, Paul était comme cela au milieu des chrétiens de Thessalonique. Et donc, si nous avions besoin, nous apprenons là quelque chose qui est universel quand même, hein, c'est que la vocation d'une maman, alors peut-être tout le monde n'est pas d'accord, mais peu importe, la vocation d'une maman est de pourvoir aux besoins des enfants, et puis aussi de tous ceux qui ont besoin. Pourvoir aux besoins, prendre soin, n'est-ce pas? Voir s'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Ah, le sel, on a oublié le sel. Du pain, est-ce qu'il y aura assez de pain? Va chercher du pain. Est-ce que ça sera chaud? Est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Il a toujours peur qu'il en manque. Souvent, il y en a trop. On le voit dans les repas fraternels. Il y en a toujours trop. On dit peut-être qu'il va en manquer. On va encore apporter quelque chose, un peu de salade. Voilà, ça c'est la vocation des mamans. Subvenir aux besoins, à la nourriture. Dès avant la naissance, un enfant est nourri par sa maman, n'est-ce pas? Voilà. L'équilibre physique et psychique de l'enfant dépend en grande partie de ce souci qu'a la maman, que l'enfant ne manque de rien. Son équilibre physique, psychique et bien sûr sa croissance. Que de problèmes à gérer dans la vie d'un enfant si c'est... Que de problèmes à gérer dans la vie d'un enfant si ses besoins ne sont pas pourvus. Et quand il a manqué des choses importantes à un enfant, eh bien, il faudra toute une vie pour compenser ses manques. Voilà. Ça, c'est pas que moi qui le dis. Hein. Tous les livres de pédagogie, de psychologie et compagnie disent cela magnifiquement. pourvoir aux besoins. Eh bien, je crois que cette vocation particulière correspond dans la Bible au ministère des diacres. Voilà. Ce n'est pas dit textuellement comme cela, mais on peut le déduire quand même très très facilement. Les diacres sont là pour pourvoir aux besoins des membres de l'Église, et notamment des plus vulnérables, des plus fragiles, des plus faibles. Et cette vocation, elle est exprimée notamment par cette expression « l'assistance destinée aux saints ». Voyez, donc 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 1, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de l'assistance destinée aux saints. » Donc ça ne suffisait pas de bien prêcher, de bien enseigner, d'avoir de bons chanteurs, de bonne musique. Il fallait que les besoins soient pourvus de la part du Seigneur, au travers des uns et des autres, en un sens au travers de tous, n'est-ce pas ? Tous reçoivent et tous donnent. Si j'ai reçu 10 euros, je peux donner 1 euro. Si j'ai reçu 1 euro, je peux donner 10 centimes d'euros. Et si j'ai reçu 10 centimes, je peux encore donner 1 centime d'euro. Vous voyez, n'est-ce pas ? Et donc, tout le monde a reçu et tout le monde peut participer à ce service commun qu'on pourrait appeler la diaconie. La diaconie, c'est le service commun et mutuel au sein de l'Église. Et l'expression « réciproquement » ou l'expression « les uns les autres » qu'on rencontre tout le temps dans l'Église, dans la lettre de Paul, « les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, visitez-vous les uns les autres », eh bien cette expression montre que cette diaconie, elle va circuler dans tous les sens, notamment de manière discrète. Quand tu fais un don, ne sonne pas de la trompette, n'est-ce pas ? Voilà. Mais Dieu le voit. D'ailleurs, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et si c'est pour un chrétien, c'est pour Christ. Voilà. Quand tu aides ton frère ou ta sœur, c'est Christ que tu aides au travers de lui. Et c'est Christ qui l'aide au travers de toi. Donc c'est vraiment centré sur la personne de Jésus. C'est la grâce. Hein. C'est l'attention. C'est le cœur de Jésus dans le cœur de chaque chrétien pour tout autre chrétien. Dès qu'on voit quelqu'un qui a besoin, il manque une ampoule pour le clignotant arrière-gauche d'une voiture. Il faut quelqu'un qui le fasse, parce que tout le monde n'a pas un tournevis cruciforme. On ne va pas rester quand même sans clignotant pendant 3 semaines. C'est dangereux. Et donc, il faut que quelqu'un dise, mais je peux venir te le faire. Et on va rendre grâce à Dieu. Et dans ce chapitre 9 de l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul le dit, non seulement cette assistance pourvoit aux besoins des saints, mais elle est en plus l'occasion d'abondantes actions de grâce envers Dieu. C'est-à-dire, quand vous apportez à quelqu'un un peu de bois, un peu de pain, un peu de lait, ou quand vous dépannez sa chaudière qui est en panne, ou quand vous allez la chercher parce qu'elle n'a plus de voiture, cette personne, elle rend grâce à Dieu. Et rendre grâce à Dieu, c'est le culte. Donc vous voyez, par le ministère qu'on appellerait le plus simple et le plus pratique, eh bien, on voit que le fruit, ce sont des actions de grâce, c'est-à-dire le culte. Et donc tout ça est spirituel. Et quand on dit le ministère des anciens, c'est spirituel, le ministère des diacres, c'est matériel. Il n'y a rien de plus faux que ça. C'est complètement faux, c'est archi faux. Voilà. C'est-à-dire le ministère de diacres qui consiste à pourvoir aux besoins, n'est-ce pas, à assister ceux qui ont besoin dans l'Église, parce que sinon la communion de l'Église est en jeu. Eh bien, c'est un ministère infiniment spirituel, parce qu'un des fruits, c'est la reconnaissance envers Dieu. Quand vous êtes parti, la personne dit « Seigneur, merci que tu es bon de m'avoir envoyé tel frère ou telle sœur. » Forcément un diacre ? Pas forcément un diacre, n'importe qui. Mais les diacres sont des modèles. Vous comprenez ? Les diacres sont des modèles. C'est-à-dire le diaconat des diacres, c'est le modèle, c'est le moteur de la diaconie de toute l'Église. Rien de ce que fait un diacre, un autre chrétien ne pourrait pas le faire. Les diacres ne font pas tout eux-mêmes, mais ils veillent à ce que ça se fasse. Ils communiquent à l'Église cette vocation de servir de la part du Seigneur, pour le Seigneur. Voilà. Je pense que c'est la vocation des diacres, et c'est une merveilleuse vocation. Je rajouterai sur les diacres un autre aspect, mais qui est contenu dans ce que j'ai dit. La vocation des diacres est de décharger les anciens pour que ceux-ci puissent se consacrer tout spécialement à leur tâche spécifique d'anciens, l'exhortation et l'enseignement. Et ça, on le voit dans le chapitre 6 du livre des Actes, n'est-ce pas ? Il y avait un problème dans l'Église, un problème de service aux tables entre des chrétiens, des chrétiennes d'origine grecque et des chrétiennes d'origine juive. Vous voyez un peu, hein ? En fait, ce n'était pas simple. Et donc, il y avait des disputes. Disputes et la communion. Donc, vous voyez, s'il y a un très bon enseignement, mais il y a des disputes, il y a des gens qui disent « Mais moi, je ne compte pas dans cette Église, regardez comme on est négligé. » L'Église, elle perd au fur et à mesure ce qu'elle reçoit. C'est comme une cruche qui est fissurée, vous voyez. Dès qu'il y a une dispute ou un ressentiment ou de la jalousie ou une querelle ou des reproches dans l'Église, l'Église est en train de perdre sa grâce quand même. Donc on donne de la grâce par en haut, elle la perd par en bas. Donc ça ne va pas beaucoup déborder, vous voyez. Et donc Pierre dit, mais nous on ne peut pas s'arrêter de prier et d'enseigner, mais vite nommons des hommes remplis de sagesse et d'Esprit Saint. C'est pas rien, hein. De qui on donne un bon témoignage, donc ils sont fiables, ça veut dire qu'ils ne cassent pas tout sur leur passage, qu'ils ne parlent pas n'importe comment, voilà, des hommes fiables, ils vont vite s'occuper de ça, pour pas que... Vous voyez, c'est comme si vous chauffez la maison ici, la porte est grande ouverte, ça ne va pas aller, vous comprenez, qu'on ferme les portes, vous comprenez ce que je veux dire, hein, plutôt les fenêtres, hein, voilà, les portes sont grandes ouvertes, mais les fenêtres sont fermées pour que la chaleur reste bien dans la maison, pendant qu'on met du bois dans le poêle. Et donc, voilà. Enseigner, c'est bien beau, mais si pendant ce temps, il y a des querelles, eh bien, on va perdre au fur et à mesure ce qu'on a reçu, ce n'est pas bon. Et donc, les deux ministères sont magnifiques. On a le ministère le plus, qu'est-ce qu'il faut dire, de plus grande autorité, l'apôtre, et le plus modeste, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, les diacres. Ces deux ministères sont présents dans la première église, et les deux sont nécessaires, absolument. Voilà. Et on voit que quand Paul écrit aux Philippiens, il dit à tous les chrétiens, aux anciens et aux diacres. Et quand Paul enseignera Timothée, en Timothée chapitre 3, il dit si il faut des anciens, c'est magnifique. Il faut que l'ancien soit. De même, il faut que les diacres soient. Voilà. Et les exigences sont quasiment identiques pour les anciens et pour les diacres. En gros, qu'ils soient des modèles, d'abord dans leur maison. On pourrait en parler jusqu'à ce soir, hein. Ça, c'est capital, n'est-ce pas? D'abord, dans la maison, il faut vivre ces choses. C'est vrai pour nous tous, d'ailleurs. Si nous le vivons d'abord dans notre maison, c'est gagné pour l'Église. Automatiquement. Même si on n'en parle pas. Si dans ma maison, c'est ordonné comme le Seigneur le veut, c'est gagné pour l'Église. L'Église en est tout de suite bénéficiaire. Si dans la maison, ça cloche, on a beau prêcher magnifiquement dans l'Église, ça clochera dans l'Église. Retenez ça, frères et sœurs. Si vous retenez que ça, je crois que c'est déjà très important, et c'est la base du ministère. Hein. Voilà. Quand Paul dit, il faut que les anciens parlent de la maison. Que ça soit ordonné dans la maison. Pas comme dans un musée, hein, mais comme d'une maison qui plaît à Dieu. Quoi. Voilà. Il n'y a rien qui déplaît à Dieu dans cette maison. Et si ça déplaît à Dieu, vite on demande pardon, on se met à genoux, et on repart avec le Seigneur. Pour les diacres, pareil. Mais pour chacun de nous, pareil. S'il y a un problème dans la maison, frères et sœurs, c'est pour l'Église. Avançons dans nos maisons. Le couple, les enfants, l'hospitalité, la télé, s'il y a une télé, c'est pas obligé, on peut vivre sans télé, mais s'il y a une télé, attention, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. L'argent, tout, plaire au Seigneur. Alors l'Église va être bénie automatiquement. Et le ministère des diacres et des anciens va se focaliser notamment dans les maisons. Et si c'est vécu dans les maisons, vous verrez que le culte sera plus beau. Après avoir dit « Nous sommes comme des mamans », Paul dit nous avons été pour vous comme des papas. Nous avons été comme des mamans et comme des papas. Et on comprend qu'il faut les deux. Il faut les deux. Et si malheureusement il manque une maman ou un papa dans un foyer, ça peut arriver, il faut que d'autres personnes, notamment dans l'Église, complètent ce qui manque. Et en un sens, toutes les mamans d'une Église sont mamans pour tout le monde. Puisque Paul l'a été. Et tous les papas dans l'Église, et on commence à devenir papa à 14 ans. Mais oui, Mais oui, si tu vois un enfant qui traverse la route tout seul, tu ne vas pas aller le chercher pour dire, hé, attention, donne la main. Tu es déjà un petit papa, tu vois. Mais oui, c'est ça. En tout cas, je veux parler de la responsabilité paternelle, de veiller à quelqu'un. Vous voyez, une fille aussi peut faire ça. Entre parenthèses, et voilà. Je vais y revenir dans un instant. Paul dit, ce que un père est pour ses enfants, nous l'avons été pour vous, vous exhortant, vous consolant, ça veut dire aussi vous défendant, vous protégeant, comme un avocat, hein, et vous conjurant, comment on pourrait dire ça, vous pressant, vous poussant. Donc la maman dit, va pas trop vite, le papa dit, vas-y, c'est le moment. Vous comprenez la tension entre le papa et la maman? Il faut les deux. Il est grand maintenant, il peut y aller. Non, il n'est pas grand, il va tomber. Non, non, il est grand, il peut y aller. C'est entre les deux. Les deux ont raison. Vous comprenez comme c'est important que les deux s'accordent. La maman dit, mais reste à la maison encore un peu. Il fait froid. Papa dit, non, mais lui, il échappe et puis il pourra y aller. Ça lui fera du bien. Il faut les deux, vous comprenez? C'est comme ça que l'enfant va grandir. C'est comme ça que Jésus a grandi. Voilà. Il leur était soumis, il croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Il avait 12 ans, il était en train de devenir déjà, il était en train de devenir un homme. Et il parlait avec les pasteurs. Et même ses parents ne comprenaient pas tout ce que Jésus faisait, parce qu'il était en train de devenir un homme, doucement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, on voit que le ministère des anciens, que j'associe à celui des papas, voilà, vous pourrez éprouver ce que je dis, si c'est juste ou pas. Hein. J'associe le ministère des diacres à celui des mamans, même si les diacres sont des hommes, puisque Paul dit « nous avons été comme des mamans ». Et j'associe le ministère des anciens à celui des papas. Et vous comprenez que c'est pas, il n'y a pas un mur entre les deux. Hein? Parce que le papa peut aussi donner un yaourt et même un peu de Nutella. Pas trop de Nutella, hein, parce que ça ne fait pas trop des hommes, le Nutella. Mais voilà, il peut donner du bon pain, des bons fruits, des bonnes je ne sais pas quoi. Et une maman peut dire à l'enfant, maintenant, lève-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. Vous comprenez, on n'est pas en train de cloisonner les domaines. Ça, c'est sûr. Hein. Le livre des Proverbes le dit. Hein. N'oublie pas l'instruction de ton père ni l'enseignement de ta mère. Hein. Voilà, ça sera une parure pour toi. Donc, on n'est pas en train de dire la maman à la cuisine, le papa à l'atelier. Ce n'est pas ça. Une maman peut aussi dévisser un boulon, un papa peut aussi faire cuire un œuf, n'est-ce pas? Mais quand même, ayant dit cela, la vocation du papa et de la maman ne sont pas totalement identiques hein, ni interchangeables. On va dire ça aujourd'hui, même si c'est un peu interdit de le dire, on le dit quand même. Voilà. Ce sont deux vocations complémentaires. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Ce qui est important, c'est que les deux soient là et que les deux soient accordés ensemble. Voilà. Nous avons été pour vous ce qu'est un père, vous exhortant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Une manière digne, ça veut dire une manière qui ait du poids. Du poids. C'est-à-dire qu'il soit solidement... convaincu et déterminé. Voilà. C'est le caractère, on pourrait dire. Hein. C'est le caractère. Jésus avait du caractère. Hein. Il dit, il prit la résolution d'aller à Jérusalem. Ce n'était pas juste est-ce qu'on y va, quoi. Hein. Voilà. Il avait de la force, mais il a aussi pleuré, il a aussi pris des enfants dans ses bras. Enfin, voilà. Vous voyez. Et donc, en Jésus, il y avait les deux. En Dieu, il y a les deux. Et en chacun de nous, il y a un peu les deux. Mais quand même, il y a des vocations maternelles, des vocations paternelles. On va le dire comme ça. Et je crois que ça correspond dans l'Église aux vocations de diacres et des anciens. Et les deux étant au service du peuple de Dieu, chacun nourrissant une veine un peu différente. Hein, la veine de pourvoir aux besoins, qu'est-ce qui manque, et la veine d'exhorter à aller de l'avant. J'ai envie de le dire comme cela, les diacres, en veillant à ce que personne ne manque du nécessaire, évitent qu'il y ait des régressions, vous voyez, comme un vase qui perd son eau. Voilà. Il est fissuré, personne ne le répare, il perd son eau. Donc voilà, un chrétien qui est tout seul chez lui parce qu'il est malade, on va pas le voir, on ne s'inquiète pas de lui, et il est en train de dire, ou plutôt le diable lui dit, « Tu vois l'Évangile, c'est une belle histoire, mais en fait, pipo, il n'y a rien derrière. » C'est juste pour faire joli. Le diable lui dit cela. Et il dit, mais ça fait 15 jours que personne ne m'a envoyé un coup de fil, quoi. Est-ce que je compte ou pas? Voilà. Quelqu'un a dit, on est vite oublié dans l'Église. alors peut-être pas dans les petites églises, mais dans les grandes églises. Quand vient pas pendant 15 jours, personne ne s'en occupe. Moi, je visite à l'hôpital des personnes qui ont prêché, qui ont fait des visites toute leur vie. Maintenant, ils ont 80 ans. On ne les connaît même plus. On ne sait même plus qu'ils existent. Il faut que vous allez à l'hôpital pour rencontrer un pasteur. Vous voyez, on dit, ouh, l'église là, elle n'est pas en très bonne santé. Hein? Il y a des brebis partout, dans les ravins, dans les buissons, au bord des précipices, dans les rivières, en train de se noyer. Ah, ben ce troupeau alors, c'est qui le berger de ce troupeau? Voilà. Vous voyez? Et donc, les diacres ont ce souci. Mais déjà, un enfant peut être déjà comme un petit diacre. Il dit, mais la grand-mère Intelle, là, elle n'était pas au culte dimanche. Voilà. Et la petite Martine, là, elle devait être opérée d'une dent de sagesse. Comment ça s'est passé? Vous voyez, il a un souci pour les autres. Il ne pense pas qu'à lui. Voilà. Il ne pense pas qu'à lui. Aujourd'hui, le bonheur semble être de penser qu'à soi. Bon, on s'occupe aussi des autres, mais on dit, d'abord moi. Vous voyez, évidemment, notre bonheur passe par le bonheur des autres. Hein, et dans l'Église, nous devons le vivre au quotidien, sans que personne ne soit oublié. Sans que personne ne soit surchargé. Attention à cela. Il y a des gens qui disent « moi je m'en fiche » et des gens qui disent « moi je vais m'occuper de tout ». Les deux sont faux. Les deux sont faux. Et un ancien ne s'occupe pas de tout non plus, vous comprenez ? Mais son souci, il le transmet à toute l'Église. Et toute l'Église est capable de dire « bon courage, tiens bon ». Voyez ? Et les diacres communiquent leurs préoccupations pour toute l'Église. Et toute l'Église est en train de veiller à ce que personne ne manque de quelque chose. Les deux. Voilà. Et si tout le monde participe, personne ne sera surchargé parce que le Seigneur va distribuer cela à chacun. Et donc, il faut des diacres et il faut des anciens. Les diacres veillent à ce que l'Église ne régresse pas. Les anciens veillent à ce que l'Église grandisse. Le diacre veille à ce que personne ne manque de nécessaire. Et même le plus fort peut manquer de nécessaire. Voilà, d'affection, de tendresse. Il y a des gens qui sont tellement habitués à donner qu'ils ne reçoivent rien pour eux. Mais leur cœur s'assèche. Ils ont besoin d'une main sur l'épaule qui dit, tu sais, merci d'être là. Voilà, ça fait énormément de bien. Mais il faut aussi, pas simplement se faire du bien les uns les autres, il faut aussi s'exhorter à aller de l'avant. Voilà. Est-ce que tu avances en ce moment avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a appris ces derniers temps? Pourquoi tu voudrais qu'on prie ensemble pour remporter une victoire dans ta vie? Ça, c'est plutôt le souci pastoral. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la parole de Dieu? Qu'on peut réfléchir ensemble à ce que ça veut dire? On va en parler, je vais y réfléchir, on se revoit la semaine prochaine et on en reparle. Voyez? Et comme ça, tout le monde grandit. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, frères et sœurs. Est-ce que tout le monde est concerné par ce que j'ai dit ce matin? La réponse est oui. Tout le monde est concerné. Par amour pour le Seigneur et par amour pour les frères. Amen.